on va commencer notre 24e leçon dans notre série sur les attributs de Dieu. On est encore dans les attributs de Dieu. Ce soir, on va voir la félicité de Dieu. Alors, on pourrait se demander d'abord comment pourrait-on définir ce mot-là, la félicité. Pour une définition simple, on pourrait dire que c'est un bonheur calme et durable. Donc, c'est une béatitude parfaite et absolue, puisque Dieu est infini dans tous ses attributs. Dieu a toujours joui de cette félicité. C'est-à-dire qu'il est dans le bonheur tout le temps, il a toujours été dans le bonheur, il est actuellement dans le bonheur, il sera toujours dans le bonheur, il nage dans le bonheur. Les trois personnes de la Trinité trouvaient en elles-mêmes et dans leur relation une source de bonheur et de satisfaction à la fois inépuisable et insondable. Premier point qu'on va regarder, c'est que Dieu est heureux en lui-même. Les Saintes Écritures sont remplies de passages qui véhiculent cette réalité. Prenons par exemple Marc 14, verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Alors, on a dans l'expression « Fils du Dieu béni », le souverain sacrificateur s'adresse au Seigneur et lui demande s'il est le Fils du Dieu béni. Alors, dans l'expression, quand on le regarde, la leçon que je donne aujourd'hui, Gill avait utilisé le nom anglais « blessedness ». Alors, c'est assez difficile à traduire, « blessedness », mais j'ai trouvé « félicité » pour avoir un équivalent. Mais dans le fond, c'est le fait que Dieu est béni dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Alors, le Dieu béni exprime cette notion de bonheur parfait. Il est béni en lui-même. Il est la source de toute bénédiction et de tout bonheur pour ses créatures. Et il est béni, adoré et louangé par tous les saints et tous les anges. Voici d'autres passages qui expriment la même idée, en précisant que cette bénédiction-là est éternelle. Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et 2 Corinthiens 11, verset 31. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Alors Dieu est constamment présenté dans la Bible comme étant bienheureux. Nous pouvons, par exemple, voir dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 11, qui dit « Conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. » Alors, c'est important de réaliser que Dieu est bienheureux en lui-même, qu'il l'a toujours été, qu'il sera toujours. 1 Timothée 6, verset 15, « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Il y a deux raisons pourquoi Dieu est heureux en lui-même. La première, c'est qu'il est libre de tout mal. On le sait par expérience, le mal amène toujours de la douleur. Dieu n'ayant aucune forme de mal en lui, bien sûr qu'il n'a pas les douleurs qui accompagnent le péché. Deutéronome 32, versets 3 et 4. « Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Donc, s'il est fidèle et sans iniquité, alors il est libre de tout mal. « Il est absolument libre du péché, qui est la source de tout désordre, d'indescriptibles désastres et de toutes les détresses et de toutes les calamités. Le Seigneur n'est pas affecté ni tenté par le péché. Il est libre de toute passion, telle que nous les vivons, les passions humaines. Dieu est libre de toute passion. » Alors, on le sait par expérience, on a juste à regarder autour de nous, dans nos propres vies, ou dans les vies des gens qui nous entourent, ou dans les vies des nations. Tout ce qu'il y a partout dans le monde, où il y a de la douleur, où il y a de la souffrance, c'est toujours si on regarde la source ultime, c'est toujours le péché. Donc, Dieu étant libre de tout mal, à ce moment-là, ça ne l'affecte pas. La deuxième raison, c'est qu'il possède tout bien. Il a tout bien, il comprend tout bien, il n'a besoin de rien, et il est le bien ultime. Il possède la grandeur infinie et le règne absolu sur toute sa création. Comme on le lit dans Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il a aussi l'abondance et la richesse. Plusieurs versets le donnent, mais Agé 2, verset 8, le Seigneur dit, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Il a aussi la sagesse. Romains 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Il a aussi la puissance, qu'on appelle l'omnipotence. On a déjà vu dans d'autres leçons sur l'omnipotence. Job 9, verset 4 et verset 19. À lui, la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Et le verset 19. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Alors, le fait qu'il a la toute-puissance, la sagesse, l'abondance, la richesse, il a absolument tout. Et il jouit de tous les délices. Psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Alors, sûrement que les délices éternels à ta droite font sûrement référence à Christ. Alors, entre les trois personnes de la Trinité, il y a une félicité constante, une circulation d'amour. Il a aussi la gloire infinie. On a déjà mentionné dans les leçons précédentes que la gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de ses attributs. Et puisque ces choses-là, tous les attributs de Dieu, on est rendu au 24e ce soir, et c'est tout infini, alors c'est sûr que il a la gloire infinie. Comme on a déjà mentionné dans les leçons précédentes, on ne peut augmenter la gloire inhérente de Dieu. La gloire de Dieu, elle est absolument parfaite, absolue, et on ne peut pas l'augmenter. Quand on dit qu'on prie pour sa plus grande gloire, on prie pour que la gloire de Dieu soit perçue plus par d'autres êtres humains. Alors, il y a une différence entre la gloire inhérente et la gloire perçue. Quand on prie pour la plus grande gloire, on prie toujours pour la gloire perçue parce qu'on ne peut pas augmenter la gloire de Dieu. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alors, si on pourrait prendre ce verset-là et faire un sermon avec, on verrait qu'il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. Il a aussi l'éternité. Alors, ça pour nous, l'éternité, c'est une notion très difficile à saisir. Le fait que Dieu n'a jamais eu de commencement, n'aura jamais de fin. Parce que nous, on est habitués, dans le linéaire, quelque chose, il y a un commencement, puis il y a toujours une fin. Mais pas pour Dieu. Alors, il a l'éternité, puisqu'il est l'éternel. Alors, c'est sûr qu'il ne manque pas grand-chose, comme on vient de voir. Il a absolument tout. Romains 16, versets 25 et 26. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Alors, le nombre de fois que le mot « éternel » est mentionné dans les Écritures, je n'ai jamais compté, mais il y en a un nombre. Alors, c'est sûr qu'on ne contestera pas l'éternité de Dieu. Alors, pourquoi il est heureux en lui-même? Parce qu'il a absolument tout, et qu'il est absolument tout, d'une façon infinie. Deuxième point qu'on va regarder pour la félicité de Dieu, c'est que Dieu est la cause de tout bonheur. que ce soit un bonheur humain, que ce soit un bonheur des anges, quelque forme de bonheur qu'une personne peut vivre, on peut très certainement affirmer que Dieu en est la source. Dieu est la cause du bonheur des anges. Premier point qu'on va regarder sous le titre « Dieu est la cause de tout bonheur ». Voir continuellement la face de Dieu, c'est l'absolu et parfait bonheur. Matthieu 18, verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Voir la face de Dieu, c'est le bonheur parfait. Un jour, on va voir la face de Dieu et on va être dans le bonheur parfait. Donc, Dieu est aussi la cause du bonheur des hommes. Le bonheur des hommes est toujours temporaire, est toujours imparfait. Cependant, la part de bonheur qu'il nous accorde, c'est sûr que c'est lui qui en est la cause. Alors, il est la cause du bonheur des hommes, leur bonheur temporel et terrestre. Psaume 68, verset 19. « Béni soit le Seigneur qui, de jour en jour, nous comble de ses dons, le Dieu qui nous sauve. » Ça, ça vient de la version Darby. « Nous comble de ses dons. » Ça nous dit, le verset est en train de nous dire que Dieu, de jour en jour, de pas une journée depuis qu'on est au monde, même les journées qui nous ont semblé les plus difficiles, dans lesquelles Dieu ne nous a pas comblé de ses dons. Une multitude de dons. S'il fallait en faire l'énumération complète, premièrement, je suis sûr qu'on n'est pas capable, parce qu'il y en a qu'on oublierait. Maintenant, le bonheur temporel et terrestre, c'est quelque chose, mais le bonheur spirituel en est encore plus grand. Le salut de Dieu. Romains 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors ça, c'est le cas de tous les convertis, tous les régénérés, tous les élus de Dieu ont cet immense cadeau. Moi, je suis convaincu qu'avec les années de vie chrétienne, on utilise ce mot-là tellement souvent qu'à quelque part, on oublie toute la profondeur, toute la richesse, toute la beauté. Le salut de Dieu, c'est quelque chose qui est infini et on n'aura jamais fini de découvrir toutes les facettes qui sont attachées à ça, la richesse qui est attachée à ça. Alors, c'est sûr que le salut, ce n'est certainement pas la moindre des cadeaux que le Seigneur nous a fait. Et rattaché au salut, il y a tous les bénéfices du salut. Je vais vous lire Romains 5, versets 1 à 11, et j'ai souligné à l'intérieur de ma lecture 5 ou 6 points que le Seigneur nous dit qui sont des bénéfices qui sont directement rattachés au salut. Romains 5, versets 1 à 11. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, dans le premier verset, on a la paix. Quand vous regardez les inconvertis autour de nous, personne ne vit en ayant la paix. Tout le monde sait, dans le fond, ils ont des comptes à rendre à Dieu, qu'un jour ils vont se présenter. Et tout le monde filme vraiment mal dans leur conscience à cause de ça. Même s'ils nient, ils disent que ce n'est pas vrai. Nous, on sait que c'est vrai parce que les Écritures l'enseignent. Première chose, la paix avec Dieu, ce n'est pas un petit cadeau. Donc, le fait qu'on sait que nos péchés sont pardonnés, on sait que la justice de Christ nous est imputée et que le Seigneur nous voit comme si on avait obéi parfaitement au décalogue et à toutes les lois de Dieu, toute notre vie sans manquer une seule fois. C'est quelque chose d'un cadeau d'une immense valeur. Deuxième verset, à qui nous devons d'avoir, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On est déjà, on sait qu'on est sauvé, cependant, on sait qu'il nous reste une partie du salut à acquérir, et la partie qui nous reste à acquérir, c'est la mort, la résurrection, et que le Seigneur nous redonne notre corps glorieux. Alors, on vit dans l'espérance, on sait que un jour, le Seigneur va nous ressusciter si on décède avant qu'il revienne. S'il revient, bien, à ce moment-là, la parole nous dit que notre corps, on montera avec lui dans les airs et nos corps seront transformés en allant à sa rencontre. Mais peu importe, on va toujours retrouver notre corps un jour, ce qui va compléter le salut qui actuellement n'est pas, sera complété uniquement lors de notre résurrection. Troisième verset, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance. Dieu nous afflige parce que la parole nous apprend que les afflictions, ça produit quelque chose. Ça produit la persévérance. Quelqu'un de persévérant dans la vie, il se rend toujours, normalement, il accomplit ce qu'il veut. Mais nous, c'est la persévérance dans la foi, dans le chemin étroit et resserré. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les Écritures nous disent qu'avant notre salut, on saillissait nous-mêmes, puis on saillissait les uns les autres. À partir du moment où on reçoit le salut, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, ce qui fait une énorme différence dans nos vies. Verset 6, là, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste? Quelqu'un pourrait-il mourir pour un homme de bien? » Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est sûr que la notion de la justification en théologie, c'est une notion fondamentale. On va revenir là-dessus sur des leçons spéciales qu'on va faire uniquement sur ce sujet-là. Mais dans le fond, ce qui est à comprendre, c'est que Dieu ne nous accorde pas le ciel parce qu'on a fait une multitude de bonnes actions durant notre vie. Dieu nous accorde le ciel premièrement parce qu'il a jugé nos péchés dans son Fils. Il a fait subir à son Fils la punition qui aurait dû être la nôtre. Et la deuxième partie, beaucoup de personnes qui sont dans la foi chrétienne oublient la question de la justification. Justification, c'est un terme légal, c'est une décision divine. Donc, c'est Dieu déclare ses élus justes. Comment Dieu peut-il déclarer juste quelqu'un qui a passé sa vie à faire des péchés dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions et dans une multitude d'omissions, et même dans des péchés secrets qu'il ne connaît pas lui-même? La réponse est bien simple. Par la foi, Christ, lui, lorsqu'il est venu sur la terre, il était le représentant de tous les élus, et lui a accompli à la perfection toutes les choses qui étaient exigées de Dieu dans le décalogue. Et non seulement dans le décalogue, parce que pour le peuple juif, il fallait qu'il ait accompli les choses qui étaient exigées des Juifs à leur époque. Donc, il avait non seulement accompli la loi morale, mais avait aussi accompli les lois civiles et cérémonielles de son époque. À partir que Christ, du moment que Christ est mort, les lois civiles et cérémonielles ont été enlevées comme obligation pour les chrétiens. Mais quand Christ est venu, il était sous la loi comme juif. Alors, il accomplit non seulement la loi morale, mais il accomplit les lois civiles et cérémonielles sans manquer à aucune durant toute sa vie. Et quand on dit le terme légal ou le terme théologique « imputation », c'est un terme simple qui veut dire simplement « mettre sur ton compte ». Ça veut dire que si moi je prendrais $1 million puis je vous le mets sur votre compte, demain matin vous auriez $1 million à la banque, vous pourriez faire ce que vous voulez avec. Jésus a mis sur notre compte sa parfaite justice. Donc le Père nous voit comme ayant accompli la loi, le décalogue et toutes les lois que Dieu exigeait de nous à la perfection. Il nous voit, la fameuse robe de justice dont on parle dans les Écritures, c'est ça. C'est une importance capitale à comprendre parce que quand on le comprend comme il faut, non seulement on comprend que nos péchés ont été pardonnés, mais on comprend aussi que pour Dieu, c'est comme si j'avais fait la loi et c'est ce qu'il exigeait pour qu'on vive avec lui dans le ciel. Alors si on comprend juste qu'il a payé pour nos péchés, qu'on ne comprend pas le fait que l'obéissance parfaite nous a été donnée par son Fils Christ, on en manque un gros morceau. Donc, on est justifié par son sang et on est sauvé par lui de la colère. Comment pouvons-nous comprendre ce fameux concept de l'enfer, nous, qui avons de la difficulté à saisir le concept d'éternité, la souffrance, si on met un être humain dans le feu pour une heure, pour une demi-heure, pour cinq minutes? Pour nous, c'est énorme. On a de la misère à comprendre ça. Dieu dit que la punition, la colère de Dieu, pour ceux qui n'auront pas reçu la grâce, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas la foi, ça va être l'éternité dans le feu éternel. Avec les remords, qu'on parle le ver qui ne meurt pas, et toutes ces choses-là, c'est, pour nous, c'est très difficile à saisir. Cependant, le Seigneur nous dit qu'à cause de la foi qu'il nous a donnée et de la repentance qu'il nous a donnée, on est libéré de cette colère-là. Si Dieu nous ouvrait les yeux à la compréhension de ce que c'est de libérer de l'enfer, je suis convaincu qu'on tomberait tous sur nos faces, puis on pleurerait comme des veaux, et on louerait le Seigneur à tour de bras sans arrêter jour et nuit pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois et des mois. On n'arrêterait jamais, en fait. C'est parce que c'est juste des notions éventuellement qui deviennent intellectuelles. On comprend intellectuellement, mais des fois, c'est bon d'accrocher un peu d'émotion avec ça, parce que dans nos émotions, on comprend plus, ou du moins un petit peu plus, que ce que l'éternité ne suffira pas. Comment peut-on savoir ce qu'on aurait subi dans l'enfer pour l'éternité? C'est impensable. Verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? » Voyez-vous la réconciliation avec Dieu? La parole de Dieu nous dit, nous affirme que tous les êtres humains, avant d'être sauvés, sont des ennemis de Dieu. Ils haïssent Dieu. Et Dieu est en train de nous dire qu'après qu'il nous a sauvés, on est réconciliés. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des êtres humains qui s'haïssent l'un l'autre, mais mettez-le pas en face l'un de l'autre, parce qu'ils s'haïssent tellement qu'ils sont prêts à se sentir, on dit en québécois. Dieu nous dit qu'avant notre salut, on était des ennemis de Dieu, en inimitié contre Dieu. Et Dieu nous dit qu'à cause de la grâce qu'on a reçue, on est libéré, réconcilié. Et comme Dieu maintenant nous voit d'une façon autre. Et verset 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Autre chose, la parole de Dieu. Luc 11, verset 28, « Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça aussi, c'est une autre affaire. S'il nous était donné de comprendre que le bonheur qu'on cherche partout, excepté là où il est, la quantité de foi que le Seigneur dit dans les Écritures, que notre bonheur, nous ne pouvons le trouver qu'en lui et dans sa parole. Pourtant, si on examine nos gestes quotidiens, est-ce que notre relation avec les saintes Écritures traduisent vraiment qu'on trouve notre bonheur là? Parce qu'on passe beaucoup de temps dans beaucoup de choses, mais peu de temps là où on trouve le bonheur. Alors, ça prouve une chose, c'est que l'être humain, même régénéré, des fois, n'a pas toujours pleinement conscience des outils que le Seigneur nous a donnés. La source du bonheur est en lui et dans sa parole. Psaume 112, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Les ordonnances, quand on est membre d'une église locale, le Seigneur permet qu'on participe aux ordonnances. Normalement, lorsqu'on est nouvellement sauvé, on veut aller vers le baptême, parce que le baptême est le symbole que l'on veut maintenant enterrer notre vieille vie et qu'on est ressuscité avec Christ pour une nouveauté de vie. Donc, c'est dans l'église locale, normalement, que cette ordonnance-là va s'exercer. Et aussi, le repas du Seigneur, on l'a fait le dimanche dernier. Quand on s'arrête à réfléchir, pourquoi le Seigneur nous a donné le repas du Seigneur, pourquoi il nous a demandé, il y a bien des églises qui le font une fois par semaine, d'autres le font une fois par mois. Ça, c'est une affaire d'église locale. Cependant, la nécessité de le faire régulièrement. De manière, pourquoi le Seigneur veut qu'on fasse ça si souvent? Disons qu'on le fait une fois par mois, c'est 12 fois par année. Et moi, je l'ai fait souvent, moi, une fois par semaine. Pourquoi répéter si souvent la même chose? Pourquoi la publicité à la télévision n'arrête pas de nous marteler, toujours avec la même idée, et nous pète ça comme à coup de marteau à quasiment 100 fois pour nous dire le même message? Parce que on est dur de comprendre, ça prend du temps avant que ça rentre. Le Seigneur sait qu'on, ça, il sait qu'on est des oublieux, et à cause du repas du Seigneur, il veut que régulièrement on lève les yeux. On regarde ce qu'il a fait à la croix, on regarde ce qu'il a fait sur la terre pour nous. Et il veut qu'on se souvienne aussi de la justification par son sang et ces choses-là. Et quand on fait le repas du Seigneur, c'est justement des occasions pour se remémorer ces choses-là. Donc, la vie éternelle, qui n'est pas la moindre non plus, Jean 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Un verset que je me sers souvent quand on fait de l'évangélisation. Je demande aux personnes, es-tu sauvé? La personne dit, je ne sais pas, je ne peux pas savoir ça. Ben, regarde, là, je dis le verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas aura, a. On l'a déjà, la vie éternelle, si on est véritablement sauvé. Et Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et le troisième point, on va regarder le dernier, Dieu est béni par ses créatures. Dieu est béni par ses anges. Dans le psaume 103, verset 20, nous disons, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Apocalypse 7, versets 11 et 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Tous les anges, ce qu'a dit le début du verset. Tous les anges disent ça de Dieu. Deuxième point, Dieu est béni par ses saints. C'est nous, ça, les ses saints. Psaume 103, versets 1 à 3. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Quand on dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, on pourrait s'examiner à la lumière de ce verset-là. On oublie-tu de ses bienfaits? Cependant, plus on se le fait rappeler, plus on sait que chaque jour, on doit chercher. On ne va pas le chercher loin si on réfléchit vraiment. Que Dieu nous bénit. Psaume 145, verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Imaginez-vous, quand le Seigneur va faire le jugement dernier et qu'il va juger les pécheurs et qu'il va les condamner à l'enfer éternel, ils vont l'adorer et ils vont reconnaître qu'il est juste. Faut le faire, là. Faut le faire. Ça veut dire qu'ils vont avoir vu une partie de Dieu qu'ils ne pourront plus jamais remettre en question ni questionner d'aucune façon. Ils vont reconnaître ce que Dieu est, saint, parfait, fidèle. Ils vont reconnaître sa justice dans leur condamnation. Et ils vont l'adorer. Imaginez-vous, c'est quelque chose. Mais ils ne l'adoreront pas longtemps. Psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louer l'Éternel. Que le beau psaume 150 qui termine le livre des psaumes. Les cinq derniers psaumes, là, c'est toute beauté. Psaume de pure louange. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. On va passer maintenant aux applications. À partir d'une leçon comme celle sur la félicité de Dieu, quelles sont les choses qu'on peut, parce que la parole de Dieu se doit de changer quelque chose en nous chaque fois qu'on la lit, chaque fois qu'on l'écoute. Première, je dirais que l'Éternel est d'une perfection absolue et infinie. Aussi, trouve-t-il en lui-même la plus complète et la plus satisfaisante félicité. Premièrement, bénissons-le pour ce qu'il est, le Dieu de toute perfection. Tous les jours, profitons de notre immense privilège de le bénir, de le louer et de l'adorer. C'est un privilège, mes amis. Deuxième, familiarisons-nous avec toutes ses œuvres, celle de la création, celle de la rédemption, celle de la providence, celle de l'élection, celle de sa souveraineté absolue. Étudions les innombrables, riches et admirables facettes de chacune de ses œuvres et élevons nos voix pour le glorifier. On a nommé plusieurs choses. On a nommé la providence, on a nommé l'élection, on a nommé... Et je n'ai pas fait une liste complète. Mais je suis convaincu que juste l'étude, par exemple, d'un sujet comme la providence serait assez pour combler le reste de vos jours, même si vous passeriez jour et nuit à l'étudier. Fait qu'imaginez-vous des raisons de louer, on en a plein autour de nous. Donc, élevons nos voix pour le glorifier. Troisièmement, anticipons avec une joie indicible le moment où nous entrerons dans cette glorieuse félicité. Sachons que notre attente et notre espérance nous comblera plus que nous sommes capables de l'imaginer. Ça aussi, c'est spécial quand les Écritures nous disent qu'on n'est même pas capable d'imaginer le poids de gloire, le poids éternel de gloire que le Seigneur va nous faire vivre. On n'est même pas capable de l'imaginer. Méditons sur cette merveilleuse vérité, comme on lit dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça veut dire que l'ensemble de toutes nos afflictions, si on les met toutes ensemble, c'est tellement petit que ça dit que c'est ce que Dieu va nous donner, c'est au-delà de toute mesure. On ne peut pas même pas mesurer ce qu'on a, toutes les afflictions qu'on a vécues. Tout ça rassemble ensemble, si on les compresserait, là, ça ne vaut même pas la peine d'être comparé à ce qu'il va nous donner. C'est au-delà de toute mesure. C'est spécial ce que le Seigneur nous dit. Un poids éternel de gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, exalté et loué à tout jamais.
Amen.